Bien, je vous invite à ouvrir la parole de Dieu, comme Wayne l'a dit, dans la lettre de Paul aux Romains, chapitre 11. Et on va lire à partir du verset 25 jusqu'à la fin du chapitre, même si on va se focaliser sur les versets 25 à 32. Mais lisons à partir du verset 25 jusqu'à la fin. Voici donc la parole de Dieu. « Car je ne veux pas, frères, que vous ignoriez ce mystère, afin que vous ne vous regardiez point comme sages. Une partie d'Israël est tombée dans l'endurcissement, jusqu'à ce que la totalité des païens soit entrée. Et ainsi, tout Israël sera sauvé, selon qu'il est écrit, le libérateur viendra de Sion, et il détournera de Jacob les impiétés. Et ce sera mon alliance avec eux lorsque j'ôterai leurs péchés. En ce qui concerne l'Évangile, ils sont ennemis à cause de vous. Mais en ce qui concerne l'élection, ils sont aimés à cause de leur Père. Car les dons et l'appel de Dieu sont irrévocables. De même que vous avez autrefois désobéi à Dieu, et que par leur désobéissance, vous avez maintenant obtenu miséricorde. De même, ils ont maintenant désobéi, afin que par la miséricorde qui vous a été faite, ils obtiennent aussi miséricorde. Car Dieu a renfermé tous les hommes dans la désobéissance pour faire miséricorde à tous. Ô profondeur de la richesse, de la sagesse et de la science de Dieu, que ses jugements sont insondables et ses voies incompréhensibles. Car qui a connu la pensée du Seigneur ou qui a été son conseiller? Qui lui a donné le premier pour qu'il ait à recevoir en retour? C'est de lui, par lui et pour lui que sont toutes choses. À lui la gloire dans tous les siècles. Amen. Et jusque-là, la parole de Dieu. On arrive donc au point culminant de ces trois chapitres, ces chapitres 9, 10 et 11, un point culminant qui va ensuite déboucher sur cette doxologie, cette louange dans les derniers versets de ce chapitre. Et on peut se poser la question, mais pourquoi on a passé autant de temps à étudier ces chapitres 9, 10 et 11. On peut comprendre pourquoi on a passé du temps à étudier les chapitres 1 à 8, parce que ces chapitres traitent de notre besoin et de la provision de Dieu pour répondre à notre besoin. On pourra comprendre pourquoi on passera du temps à étudier les chapitres 12 à 16, parce qu'ils vont nous amener à considérer la réalité du quotidien, les hauts et les bas de la vie chrétienne, de la vie de l'Église. Mais nous qui, sauf erreur de ma part, sommes d'origine non-juive, pourquoi est-ce qu'on a pris autant de temps à étudier ces chapitres 9, 10 et 11, quand Paul parle essentiellement de l'œuvre de Dieu, de l'accomplissement de ses desseins envers Israël? En fait, on ne devrait pas poser cette question pour la raison suivante. L'Église à Rome, à laquelle Paul écrit cette lettre, ressemble beaucoup à la nôtre. Elle est composée de croyants d'origine païenne et très peu de croyants d'origine juive. Et on a vu la dernière fois que la plupart des Juifs avaient été chassés hors de Rome en l'an 50 par l'empereur Claude. Il est donc raisonnable, logique même, de penser que l'Église à Rome était essentiellement composée de croyants d'origine païenne, même s'il y a des croyants d'origine juive. Et c'est donc à eux que Paul écrit ces chapitres. C'est donc à eux que Paul écrit les chapitres 9, 10 et 11. Et on a vu qu'il lutte avec ce fardeau pesant qui est sur son cœur. Mes compatriotes, selon la chair, ne sont pas venus à la foi en Christ. Et Paul se bat avec ce fardeau théologique qui lui pèse. Comment se fait-il qu'avec tout l'Ancien Testament, toutes les promesses que Dieu a faites, comment se fait-il qu'Israël ne croit pas? Est-ce que la parole de Dieu a failli? Mais alors que Paul raisonne, que Paul se bat avec ces questions, il va nous apporter, et nous a apporté déjà, des réponses à ces difficultés et à ses propres luttes. C'est quelque chose d'important pour l'apôtre Paul, et il veut vraiment aborder cette question. Il est profondément préoccupé par cette relation entre les croyants d'origine juive et les croyants d'origine païenne. Et si vous voulez une bande-annonce de ce qui va se passer dans quelques semaines, peut-être quelques mois, lisez le chapitre 14 et le début du chapitre 15 de cette lettre. On voit que Paul traite un problème qui est bien réel dans l'Église à Rome, un problème qui semble être lié à une tension entre le style de vie des croyants d'origine juive et le style de vie des croyants d'origine païenne. Et Paul dira au chapitre 15, les versets 8 et 9, il fera une déclaration extraordinaire au sujet du Seigneur Jésus-Christ. Il dit « Je dis en effet que Christ a été serviteur des circoncis, des Juifs, pour prouver la véracité de Dieu en confirmant les promesses faites au Père, tandis que les païens glorifient Dieu à cause de sa miséricorde. » Et Paul est en train de dire que cela, tout ceci fait partie de l'œuvre du Seigneur Jésus-Christ, comme il le dira par exemple dans sa lettre aux Galates ou dans sa lettre aux Éphésiens, que un des objectifs du Seigneur Jésus-Christ était d'unir en un seul corps, juifs et païens, de les unir en une seule communauté, par la même grâce, par le moyen de la foi, dans le Seigneur Jésus-Christ, dans le Messie qui est promis. Mais on trouve un autre fardeau à la fin de cette lettre. C'était le fardeau de récolter des fonds. Pas pour lui-même, bien sûr, mais pour apporter à Jérusalem une offrande de la part des croyants d'origine païenne comme une évidence de l'unité entre les chrétiens d'origine païenne, qui sont répartis un peu partout, et les chrétiens d'origine juive qui sont dans l'église mère à Jérusalem. Et on abordera ça au chapitre 15. Et c'est une manifestation de cette unité entre croyants que rien au monde ne peut accomplir à part le salut en Jésus-Christ. Paul veut démontrer à cette église, à ses croyants, que Dieu accomplit ses desseins heure après heure. Et on peut comprendre pourquoi Paul, très tôt dans sa lettre, a souligné que l'Évangile est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit, du juif premièrement, puis du grec. Et il a posé un peu plus loin la question au chapitre 3, verset 29. Dieu est-il seulement le Dieu des juifs? Et il a répondu non. Dieu est aussi le Dieu des grecs, des non-juifs. Mais là où nous sommes arrivés dans cette lettre, à la fin de ce chapitre 11, on pourrait poser la question inverse. Dieu est-il seulement le Dieu des non-juifs, le Dieu des païens? Et Paul veut nous enseigner que non, Dieu est aussi le Dieu des juifs. Et il va arriver à cette doxologie, cette louange à Dieu dans les versets 33 à 36, c'est de lui et par lui et pour lui que sont toutes choses. Et Paul voit avec l'éclairage que Dieu lui donne, Paul voit ce que Dieu est en train d'accomplir dans le cours de l'histoire. Dans la crucifixion de notre Seigneur Jésus-Christ, le Seigneur a été rejeté par son peuple, selon la chair. Mais ce rejet a amené la proclamation de l'Évangile aux nations, aux païens. La bonne nouvelle est partie de par le monde. Et c'est ce que l'apôtre Paul a connu partout où il est allé. Il a été rejeté par les Juifs dans des synagogues. Ses compatriotes, selon la chair, ont rejeté le message de l'Évangile. Et il s'est tourné vers les païens. Et Paul a vu cela, que Dieu a utilisé cela pour que les païens, les nations, les non-juifs entendent l'évangile et soient amenés à croire dans le Seigneur Jésus-Christ. Mais comme il le dit au verset 12, si leur chute, le rejet de la part d'Israël a été la richesse du monde et leur amoindrissement, la richesse des païens, combien plus leur plénitude, c'est-à-dire combien plus en sera-t-il ainsi quand la totalité des élus juifs, quand leur plénitude sera entrée et quand ils croiront. Si la bénédiction est venue à travers leur rejet de l'Évangile, leur rejet du Seigneur Jésus-Christ, quelles bénédictions inimaginables seront déversées quand les compatriotes de Paul, selon la chair, viendront à croire dans le Seigneur Jésus-Christ. Et on a vu que Paul a tiré une application d'abord pour lui-même. Son propre ministère était envers les païens. Mais alors qu'il exerce ce ministère envers les païens, une des pensées qui traverse son esprit, c'est « Seigneur, crée une jalousie dans le cœur de mes compatriotes ». Quand il voit les bénédictions qui sont promises, qui étaient promises dans l'Ancien Testament pour le peuple de l'Ancienne Alliance, quand il voit ces promesses appartenir maintenant à un autre peuple, rends-les jaloux. Paul veut voir ses compatriotes être jaloux de ce que les chrétiens ont en Christ, les trésors qui avaient été promis dans l'Ancien Testament. Quand ils réalisent que toutes leurs attentes trouvent leur réponse dans le Seigneur Jésus-Christ, le Messie. Et puis il va trouver une application aussi pour... Enfin, il va appliquer cela aux païens, aux croyants d'origine païenne. L'Évangile nous est parvenu parce qu'il a été rejeté par les compatriotes de Paul. Mais Paul nous avertit, verset 18, « Ne te glorifie pas aux dépens de ses branches. » Verset 20, « Ne t'abandonne pas à l'orgueil. Nous tenons debout si nous demeurons fermes dans la bonté de Dieu. » Dans cette gratitude envers le Seigneur pour tout ce qu'il a fait pour nous et que tout ce qu'il nous a donné par grâce, nous n'avons aucun mérite. Et maintenant, il arrive au verset 25. Il semble l'appliquer encore plus loin. « Afin que vous ne vous regardiez point comme sage. Je ne veux pas que vous ignoriez ce mystère, frère. » Et ici, Paul s'adresse à tous les croyants, pas seulement ceux d'origine païenne, mais aussi ceux d'origine juive. C'est sa façon caractéristique d'inclure tous les croyants quand il utilise ce terme de « frère ». Et là, il est rempli d'émotion. « Frère, voilà ma passion. À la fin de cette explication que je viens de vous donner, je ne veux pas que vous ignoriez ce mystère. Je veux que vous compreniez ce mystère. » Il est en train de dire, « Vous avez regardé l'énigme. Je vais maintenant vous donner la signification de cette énigme. » Alors, quelle est la signification de ce mystère? On pourrait poser une autre question. Quel est ce mystère? Et pour comprendre ce qu'est un mystère pour l'apôtre Paul, on va anticiper un petit peu et voir ce qu'il dit à la fin de sa lettre au chapitre 16, dans les derniers versets, versets 25 et 26. Il termine sa lettre en disant « À celui qui peut vous affermir selon mon évangile et la prédication de Jésus-Christ conformément à la révélation du mystère, caché pendant des siècles, mais manifesté maintenant par les écrits des prophètes, d'après l'ordre du Dieu éternel, et porté à la connaissance de toutes les nations, afin qu'elles obéissent à la foi. » Un mystère, ce n'est pas un problème qu'on ne peut pas comprendre. C'est une vérité, c'est une réalité que l'on ne peut apprécier que si Dieu révèle sa véritable signification. Et le Nouveau Testament, et Paul en particulier, parle en plusieurs endroits de secrets qui ont été cachés pendant des siècles et que Dieu a révélés maintenant en Jésus-Christ, dans l'Évangile. Les plans de Dieu commencent à devenir plus clairs et ils sont tous centrés sur Christ. Les mystères de l'Ancien Testament qui parlent du Fils de l'homme, du serviteur souffrant, on a fait allusion à Ésaïe 53 tout à l'heure, du roi qui vient, du souverain sacrificateur selon l'ordre de Melchisédek, du prophète comme Moïse. Tous ces mystères sont des énigmes dans l'Ancien Testament. Mais maintenant, en Jésus-Christ, tout cela devient plus clair parce que Dieu a révélé les desseins qu'il avait cachés dans son cœur depuis la création du monde. Il les a révélés en Christ. Et Paul nous dit qu'il y a un mystère que Dieu veut que nous comprenions, que Paul ne veut pas que nous ignorions. Et il dit trois choses, et on va diviser ce passage en trois points. Dans le verset 25 et le début du verset 26, il parle de la nature de ce mystère. À la fin du verset 26 et le verset 27, il donne un témoignage biblique au sujet de ce mystère. Et le verset 28 à 32, il donne une explication supplémentaire de ce mystère. Le premier grand point, donc verset 25 et le début du verset 26, Paul parle de la nature de ce mystère. Ce que Paul dit ici peut nous paraître étrange. Et ces versets ont fait l'objet de débats et de controverses tout au long de l'histoire. Car, verset 25, « Je ne veux pas, frères, que vous ignoriez ce mystère, afin que vous ne vous regardiez point comme sages. Une partie d'Israël est tombée dans l'endurcissement, jusqu'à ce que la totalité des païens soit entrée, et ainsi tout Israël sera sauvé. » Presque chaque mot a été étudié, analysé, débattu. Qu'est-ce que Paul veut dire par tout Israël? Qu'est-ce que Paul veut dire par la totalité des païens? Qu'est-ce que Paul veut dire au début du verset 26? Et ainsi, certains sont convaincus que nous savons exactement ce que Paul veut dire, mais ce n'est pas le cas. Les meilleurs commentateurs diffèrent sur l'interprétation de ces versets. Mais cela ne doit pas nous alarmer. Cela souligne un principe très important au sujet de la prophétie biblique en général et au sujet de la révélation prophétique de Paul en particulier. Ce principe, c'est que l'interprétation de n'importe quelle prophétie biblique reçoit son sens le plus complet seulement quand cette prophétie est accomplie. C'est un point important. L'interprétation de n'importe quelle prophétie biblique reçoit son sens le plus complet, le plus clair, seulement quand cette prophétie est accomplie. Et donc, il apparaît que nous devrions avoir une certaine prudence quand nous explorons ce passage, pour ne pas exiger de ce passage que Paul nous donne des réponses détaillées à des questions dont les réponses définitives ne seront données que lorsque la réalité sera révélée. Mais, et ceci peut nous aider, si une interprétation de ce passage ne me remplit pas de zèle pour l'annonce de l'Évangile, alors je ne lis pas correctement ce passage. Parce que dans tout le passage, le souci de Paul est de voir des personnes venir à Christ, en particulier ses compatriotes. Et si je pense avoir l'interprétation, la bonne interprétation d'un passage comme celui-ci, mais que je ne suis pas rempli davantage d'un fardeau pour la conversion de personnes, comme Paul était rempli d'un fardeau pour la conversion de personnes, alors je passe à côté de ce que Paul est en train de dire. L'enseignement prophétique de la Bible n'est pas là pour faire de nous des théologiens du dimanche qui sont confortablement assis dans leur canapé, qui n'ont pas le fardeau pour le salut des pécheurs. Non, cet enseignement est là pour que nous partagions le même fardeau que l'apôtre Paul, de voir l'Évangile être proclamé, de voir des âmes se tourner vers le Seigneur Jésus-Christ. Et donc on va suivre l'argumentation de l'apôtre Paul. On va laisser de côté les controverses, parce qu'elles ne nous amènent pas grand-chose. Et on va suivre l'apôtre Paul. Tout d'abord, Paul dit qu'une partie d'Israël est tombée dans l'endurcissement. Une autre traduction, c'est qu'un endurcissement partiel est tombé sur Israël. Et Paul nous a enseigné cela depuis le début. C'est son argument principal. L'endurcissement qui est venu sur Israël n'est pas total, puisque Paul lui-même est un croyant. Paul lui-même, et on l'a lu en Philippiens chapitre 3, Paul lui-même est venu au salut, à la foi en Jésus-Christ. Et on a vu que Jacques a dit à Paul qu'il y a des milliers de Juifs qui croient dans le Seigneur Jésus-Christ. Donc l'endurcissement est réel, mais il est partiel. Paul rajoute ensuite, « Je ne veux pas que vous ignoriez, frères, qu'une partie d'Israël est tombée dans l'endurcissement jusqu'à ce que la totalité des païens soit entrée. » Qu'est-ce que la totalité des païens ? Paul nous donne une explication, une indication plutôt, un peu plus tard, au chapitre 15, les versets 16 et 25, quand il parle de son propre ministère. Il dit qu'il a exercé son ministère comme un service, le service d'un sacrificateur. Je m'acquitte du divin service de l'Évangile de Dieu, afin que les païens lui soient une offrande agréable, étant sanctifiés par l'Esprit Saint. Et Paul continue dans ce passage en parlant, en disant qu'il ressent la plénitude dans ce ministère, dans ce sens qu'il a prêché l'Évangile de Jésus-Christ dans toutes les régions qu'il a visitées. Partout où il a été, où Dieu l'a amené, il a annoncé l'Évangile. L'Évangile est allé partout où l'apôtre Paul est allé. Ainsi, chapitre 15, versets 19 et 20, « Ainsi, depuis Jérusalem et les pays voisins jusqu'en Illyrie, j'ai abondamment répandu l'Évangile de Christ. » Et Paul a annoncé l'Évangile parmi tous les païens dans toutes les régions où il a été envoyé. De sorte, et c'est ce qu'il veut voir, de sorte que la plénitude des païens, l'ensemble des élus d'origine païenne, entrent dans le peuple. Et ensuite, Dieu fera quelque chose de remarquable. Il y a cette locution « jusqu'à ». C'est un signe que cet endurcissement d'Israël ne va pas durer. Il durera jusqu'à la plénitude des païens soit entrée. Et continue verset 26. « Et ainsi tout Israël sera sauvé. » Paul ne parle pas, bien sûr, de tous les Israélites. L'expression « tout Israël » ne fait pas allusion à tous les Israélites de tous les temps. Paul est en train de dire ici, quand l'Évangile aura été annoncé jusqu'aux extrémités de la terre, à tout le monde païen, que la plénitude des païens est entrée, tous les croyants d'origine païenne sont entrés, alors dans sa grâce, Dieu va lever le voile des yeux de son peuple de l'ancienne alliance. Et un grand nombre cherchera le Seigneur Jésus-Christ et le trouvera comme leur sauveur. Dieu avait fait cette promesse à son peuple dans l'ancien temps et le peuple a rejeté. Le résultat de leur rejet a été la proclamation de l'Évangile aux païens. Mais quand cette œuvre de Dieu arrivera aux extrémités de la terre, Dieu, dans sa providence, qui avait gardé un voile sur le peuple dans l'ancienne alliance, Dieu va retirer ce voile. Et des hommes et des femmes de la race d'Abraham chercheront et trouveront le Seigneur Jésus-Christ. C'est pour ça que Paul a écrit au verset 15, car si leur mise à l'écart a été la réconciliation du monde, que sera leur réintégration, sinon le passage de la mort à la vie? Et juste en passant, si Paul voulait parler de la résurrection, il aurait utilisé le terme résurrection, comme il le fait en Philippiens 3. Mais ici, il ne parle pas de résurrection, il parle d'un événement, d'une période tellement extraordinaire que le seul équivalent est celui de la vie spirituelle qui vient, qui entre dans un olivier mort pour lui donner la vie. Quand la plénitude des païens sera entrée, alors la plénitude d'Israël entrera et tout Israël sera sauvé. L'Israël de Dieu, composé de juifs, de non-juifs, de personnes de toute langue, de toute tribu, et de toute race. Paul dit, cela est un mystère. La plupart des païens n'auraient jamais élaboré un tel plan. La plupart des juifs non plus. C'est un plan extraordinaire de notre grand Dieu. Et on a vu comment Paul a bataillé au sujet de la question de ses compatriotes, au sujet des desseins de Dieu, au sujet du péché de l'homme. Et on voit que Dieu a éclairé l'esprit de Paul pour l'amener à une résolution qui amène une stabilité dans un monde instable. Paul se rappelle qu'il y avait un temps dans l'histoire où les païens étaient séparés de Dieu. Aucune des promesses de Dieu ne s'étendait au-delà des enfants d'Abraham. Les païens étaient sous un voile. Mais Dieu a levé ce voile. C'est le peuple choisi qui a maintenant un voile sur les yeux. Et Dieu va lever un jour ce voile et il y aura la vie. C'est un mystère. C'est comme si Paul se parlait à lui-même. Maintenant, je vois cela. Ça ne diminue pas le fardeau que j'ai pour mes compatriotes. Si seulement ils pouvaient être sauvés. Mais cela me donne la force, cela me donne la stabilité. Parce que je sais que Dieu accomplit ses desseins souverains année après année et que rien ne l'empêchera d'accomplir ses desseins. Ce qu'il a décidé d'accomplir, il le fera. Et c'est ce qui poussera Paul à s'exclamer dans cette merveilleuse doxologie à la fin de ce chapitre au sujet de la grandeur et de la gloire de Dieu. Certaines personnes pensent que le mystère, c'est simplement le fait que les païens sont entrés suite à l'endurcissement d'Israël, mais Paul aurait pu comprendre cela de lui-même. Cela ne l'aurait pas amené à exploser comme il le fait au verset 33 et suivant. Paul a un fardeau, on a vu, pour les siens. Mais quand il comprend que le voile qui est sur leurs yeux sera un jour levé, il explose de louange. Et ce que cela veut dire, c'est que toutes les promesses de l'Ancien Testament au sujet de la propagation du triomphe de l'Évangile, toutes ces promesses sont encore l'espoir de l'Église aujourd'hui. Est-ce que Dieu va être vaincu par l'homme? Non. Il vient un jour où la plénitude des païens sera entrée. Et le voile sera ôté des yeux des Juifs. Et Dieu prouvera aux yeux du monde qu'il règne et qu'il accomplit ce qu'il a promis, ce qu'il a décidé. Et Paul va glisser un passage de l'Ancien Testament pour apporter le témoignage de l'Écriture à ce mystère. Et c'est le deuxième point, le témoignage biblique. Et Paul cite Ésaïe 59, les versets 20 et 21. Mais il change un mot. Pourquoi? Parce que Paul veut faire ressortir l'application des Écritures sur la réalité de son temps. Ésaïe 59, versets 20 et 21, parle du libérateur, du rédempteur qui vient pour Sion. Paul parle ici du libérateur qui vient de Sion. Et qu'est-ce qui se passe dans la tête de l'apôtre Paul? Il se passe ceci, le Rédempteur, le Libérateur est venu pour Sion. Oui, il a été annoncé par Ésaïe et il est bienvenu pour Sion. Il a été crucifié à Sion, il a été enseveli à Sion, il a ressuscité à Sion, mais il n'est pas resté à Sion. Il a été glorifié et il a déversé son Saint-Esprit. Et quand Paul applique cela, il regarde vers l'avenir, il regarde vers ce jour où le libérateur viendra de Sion et il détournera de Jacob les impiétés. Et ce sera mon alliance avec eux lorsque j'ôterai leurs péchés. C'est la nouvelle alliance que Dieu avait promise avec le pardon des péchés. Et cette nouvelle alliance inclura bien sûr des compatriotes de Paul. Vous noterez au passage que Paul part du principe que ses compatriotes juifs seront sauvés exactement de la même manière que les païens sont sauvés. C'est pour ça qu'on ne peut pas accepter le point de vue qui affirme que cela va se passer après le retour du Seigneur Jésus-Christ, pour différentes raisons, mais en particulier parce que cela impliquera au moins en partie un salut par la vue, quelque chose en plus de la foi dans la mort et la résurrection du Seigneur Jésus-Christ. Paul parle ici de quelque chose qui se passe avant le retour de Christ. Combien de temps avant le retour de Christ? Ce n'est pas à nous de fixer les jours. Ce n'est pas à nous de compter les jours. Mais tous les croyants, tous les chrétiens seront sauvés exactement de la même manière par la foi en Jésus-Christ, par la foi dans le Rédempteur crucifié. Parce qu'en lui, nous avons une fontaine pour laver nos péchés, laver nos impuretés, que l'on soit juif ou non-juif. Et cela nous amène au troisième point, l'explication que nous donne l'apôtre Paul dans les versets 28 à 32. Il dit au verset 28, « En ce qui concerne l'Évangile, ils sont ennemis à cause de vous. » Et c'est leur position actuelle. Il y a, comment est-ce qu'on comprend le terme « ennemi » ? Il y a une inimitié de la part des Juifs envers Dieu, parce qu'ils ont rejeté le Fils de Dieu. Ils ont rejeté son Évangile, ils ont rejeté la bonne nouvelle. Mais il y a aussi une inimitié de la part de Dieu envers les Juifs à cause de vous, afin d'amener l'Évangile aux païens, afin que l'Évangile soit annoncé aux nations. Et Paul continue. Mais, en ce qui concerne l'élection, le principe de l'élection, ils sont aimés à cause de leur Père. Ils ne sont pas aimés en cause d'eux-mêmes, mais à cause de leur Père. Au chapitre 9, versets 4 et 5, Paul avait dit qu'il était prêt à être séparé de Christ pour ses frères, ses parents selon la chair. Et il dit, les Israélites à qui appartiennent l'adoption, la gloire, les alliances, la loi, le culte, les promesses et les patriarches. De qui est issu selon la chair le Christ, qui est au-dessus de toutes choses, Dieu béni éternellement. Paul ne peut pas oublier que les pères, les patriarches ont été choisis par Dieu. Que ce soit Abraham, Isaac ou Jacob, et on l'a vu, Dieu a choisi, souverainement choisi ses pères de la nation. Paul précise au verset 29, car les dons et l'appel de Dieu sont irrévocables. Dieu ne regrette pas ce qu'il a donné à Israël. Et son appel à venir à lui ne change pas. Et Paul le dira encore plus loin, versets 30 et 31. Il l'applique à nous-mêmes. De même que vous avez autrefois désobéi à Dieu et que par leur désobéissance, vous avez maintenant obtenu miséricorde. De même, ils ont maintenant désobéi afin que par la miséricorde qui vous a été faite, ils obtiennent aussi miséricorde. Qu'est-ce que cela veut dire ? Par quel moyen Dieu va-t-il ouvrir les yeux de son peuple de l'ancienne alliance? Par la jalousie que Dieu va créer quand l'Évangile se répand dans le monde entier, quand l'Évangile transforme les cœurs des vies pour la gloire de Dieu, quand les croyants, les chrétiens jouissent des promesses qui étaient d'abord données au peuple de l'Ancienne Alliance. Dieu ne revient pas sur la promesse qu'il a faite à Abraham, que dans sa postérité, toutes les nations de la terre seront bénies, et toutes les nations de la terre incluent les compatriotes, des compatriotes de Paul, des croyants d'origine juive. Et Paul va terminer au verset 32, « Car Dieu a renfermé tous les hommes dans la désobéissance. » C'est là où nous sommes par nature. C'est un résumé de Romains 1, 18 à 3, verset 20. Aucun juste, pas même un seul. Le monde entier est tenu pour coupable devant Dieu, que l'on soit juif ou païen. C'est la plateforme sur laquelle Paul a construit toute sa lettre. Et Paul précise, car Dieu a renfermé tous les hommes dans la désobéissance pour faire miséricorde à tous. Il n'est pas étonnant donc que Paul va ensuite éclater dans cette doxologie à la fin de ce chapitre. Certains disent que Paul fait des Juifs un cas particulier. Si on lit bien Paul, c'est plutôt l'inverse. Il fait des païens un cas particulier. D'abord, Dieu fait grâce à Abraham, qu'il appelle. Il fait grâce à ses descendants. C'est à eux que Dieu va donner sa parole, ses promesses, comme il le dit au chapitre 9. Mais à cause de leur rejet de Jésus-Christ, Dieu va faire grâce aux païens. Et rien ne peut arrêter Dieu dans l'accomplissement de son dessein. Dieu aura son peuple, composé de personnes de toute race, de toute tribu, de toute langue. Mais il n'y a qu'un seul chemin pour faire partie de ce peuple. Et c'est par grâce, par le moyen de la foi en Jésus-Christ, que l'on soit juif ou non juif. C'est ce pourquoi le Messie est mort, afin de réconcilier en un seul corps, juif et païen, par la foi en Jésus-Christ. Comme Paul le dit en Romains chapitre 3, versets 29 et 30, « Dieu est-il seulement le Dieu des Juifs ? Ne l'est-il pas aussi des païens ? Oui, il l'est aussi des païens, puisqu'il y a un seul Dieu qui justifiera par la foi les circoncis, les Juifs, et par la foi les incirconcis, les païens, les non-Juifs. Il n'y a qu'un seul chemin. Il n'y a qu'un seul sauveur, il n'y a qu'une seule foi, il n'y a qu'un seul évangile, un seul Dieu qui justifie par la foi le pécheur qui vient à Christ, quelles que soient ses origines, quelle que soit sa vie, quel que soit son passé. Quand ce pécheur vient à Christ, dans la repentance et la foi, il découvre ce sauveur parfait qui a été promis depuis le jardin d'Éden, qui a été annoncé tout au long de l'Ancien Testament, qui est venu pour vivre, pour souffrir, pour mourir, pour ressusciter, pour réconcilier avec Dieu un peuple composé de juifs et de païens, de personnes à qui Dieu a fait miséricorde et qui ont toutes été justifiées, déclarées, considérées justes, considérées non coupables par la foi en Jésus-Christ. Quel merveilleux évangile nous avons, quel grand Dieu nous avons qui accomplit son dessein parfait, son dessein merveilleux de réconcilier à lui-même un peuple, son peuple, composé de personnes de toute race, de toute origine, de toute langue, de toute tribu, et de le faire par un seul moyen, par la foi en Jésus-Christ. Et tout cela est par grâce. C'est pour ça que Paul ne peut qu'éclater dans cette doxologie, dans la fin de ce chapitre. Et cette doxologie, Dieu voulant, nous la considérons la prochaine fois. Que Dieu bénisse sa parole à nos cœurs ce matin. Amen.